Je voudrais déjà saluer tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Noël est passé, mais c'est encore tout proche. Et lorsque on m'a demandé de vous apporter le message ce matin, je pensais pouvoir apporter quelque chose en rapport avec Noël le 26 décembre, c'est normal. Et puis j'ai demandé au Seigneur de me montrer ce que je devais vous apporter, et puis il y a déjà pas mal de temps, au moins 3 semaines, et puis j'avais un mot qui s'imposait à moi, c'était obéissance. Et puis j'avais pas du tout envie de parler d'obéissance, alors j'ai demandé au Seigneur, mais écoute, montre-moi ce que je dois, et puis ce mot il s'imposait à moi, j'avais rien d'autre. Alors j'ai dit, il faut que j'obéisse. Donc je ne vais pas vous parler vraiment de Noël ce matin, mais néanmoins, je vais vous parler quand même d'une femme qui a un certain rapport avec Noël, puisqu'il s'agit de Marie, et puis d'une autre femme aussi. Et ces deux femmes de la Bible, on va essayer de faire un parallèle entre leur vie et voir ce que ça peut nous dire et nous apporter aussi pour nos vies à nous. Essayez d'en tirer un enseignement. Alors, la deuxième femme dont je vous parlerai, c'est Ève. Et on peut dire que Ève, elle avait une situation privilégiée, puisque avec son mari Adam, dans le jardin d'Éden, ils avaient un contact direct avec Dieu. Ils avaient une intimité avec Dieu extraordinaire. Et néanmoins, il s'est passé quelque chose qui a entraîné toute l'humanité derrière. Et puis Marie, quant à elle, elle n'avait pas cette relation privilégiée, mais elle avait quand même une relation, sans doute, avec Dieu, puisque Dieu l'a choisie. Et quand elle a reçu un émissaire de Dieu, nous verrons comment elle a réagi elle aussi. Et nous verrons aussi que Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Alors comment est-ce que nous réagissons lorsqu'il nous dévoile ces plans qu'il a pour nos vies? Voilà, c'est un peu tout de ça que on va parler ce matin. Et je vous propose de prier maintenant. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce de ce que, c'est vrai, nous pouvons ce matin nous réjouir de ce que nous avons cette capacité de nous approcher de toi et de pouvoir nous retrouver dans ta présence ce matin, mais parce que Jésus est venu il y a 2000 ans et nous sommes reconnaissants de ce que nous avons ce privilège de te connaître. Tu t'es révélé à nous un jour. Mais Seigneur, ce matin, nous nous attendons à ce que tu nous parles au travers de ta parole et que ton Saint-Esprit nous visite et nous dévoile vraiment ce que tu attends de nous. Et je te prie, Seigneur, de vraiment maintenant gommer tout ce qui pourrait venir de moi-même et que ta parole ce matin puisse nous interpeller, ton Saint-Esprit puisse nous visiter et que nous soyons attentifs à ce que tu veux nous dire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, désobéissance ou soumission? C'est une question. Donc, comme je vous ai dit, on va ce matin faire un parallèle entre la vie de deux femmes de la Bible. Qu'est-ce que leur attitude a produit comme résultat et quel enseignement nous pouvons en tirer pour nos vies? Premier exemple d'attitude, c'est Ève. Nous lisons un premier texte dans le livre de la Genèse. Nous prendrons au chapitre 2 les versets 16 et 17. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, « Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal, de celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et puis nous passons au verset 6. « Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea, et l'en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. » Alors on ne sait pas vraiment combien de temps s'est passé entre le moment où Dieu a donné cet ordre à Adam et le moment où ils ont dérapé, mais on pourrait dire que peut-être que Ève avait des circonstances atténuantes, parce que quand même, c'est à Adam que Dieu a parlé. Ève, elle n'était pas là. Parce que nous, si nous lisons le texte, quand Dieu s'adresse à Adam, Ève, on n'en parle pas encore. La création d'Ève, elle vient après. Alors, on ne sait pas si vraiment elle est venue après, parce que la chronologie dans la Bible, hein, c'est pas toujours en fonction de ce qui est écrit dans le texte, mais a priori, Ève n'était pas là encore. Et est-ce que Adam a vraiment bien communiqué avec elle? C'est ce qu'on pourrait penser. Et on pourrait dire qu'elle ne mesurait pas vraiment les conséquences de son acte. Mais cet argument ne tient pas, parce que si on regarde ce qui s'est passé un peu plus tard, dans sa conversation avec le serpent, on constate qu'Ève, elle connaît parfaitement les consignes de Dieu, puisqu'elle en parle. Avec le serpent, elle dit, quand il lui dit, mais est-ce que Dieu a vraiment dit, vous mangerez pas des arbres du jardin? Elle dit, si, si, on peut manger de tous les arbres, mais si on mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on mourra. Alors, ça, le serpent, il lui dit, mais non, vous ne mourrez pas. Dieu, il sait très bien que si vous en mangez, vous allez devenir comme lui. Et, chose extraordinaire, eh bien, elle préfère ajouter du crédit à la parole du serpent qu'à la parole de Dieu. C'est dramatique. Elle a dû rapidement déchanter lorsqu'elle a subi les conséquences de sa désobéissance. Alors évidemment, ils ne sont pas morts tout de suite, Adam et Ève. On pourrait dire, ben, ouais, le serpent avait raison, hein. Ils ne sont pas morts, hein. Mais ils sont devenus mortels. Et le problème, c'est qu'ils ont entraîné toute l'humanité dans cet état de fragilité. Maintenant, nous allons voir un deuxième exemple avec une deuxième façon d'agir, une deuxième attitude avec Marie. Et nous lisons dans Luc, chapitre 1er, les versets 30 et 31. L'ange lui dit alors, donc c'est Gabriel qui vient visiter Marie et qui s'adresse à elle, il lui dit, n'aie pas peur Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Alors je passe et je vous propose de lire tout de suite la réaction de Marie au verset 38. Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Alors, ça a dû être quelque chose pour Marie, la visite de l'ange Gabriel. Il lui annonce des choses absolument incroyables. Elle écoute attentivement, et puis nous voyons au verset 38 sa réaction magnifique. On a vite fait de lire ce texte, mais essayez de vous mettre à la place de Marie. dans le contexte de l'époque. Elle aurait bien pu argumenter et demander à l'ange des garanties avant de s'engager. Les risques sont multiples. Alors imaginez, mettez-vous à sa place quand elle va annoncer à son fiancé, je suis enceinte, mais c'est le Saint-Esprit, hein, c'est Dieu. Mon œil, hein. Qui va croire un truc pareil, franchement? Et puis son entourage, hein, ses proches, tout ça. Elle aurait pu dire, écoute, ouais, je suis d'accord, hein, mais attends un petit peu, et puis quand je serai marié ou juste avant, comme ça, il n'y a pas de risque pour moi, quoi. Hein. Non. Elle dit, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Elle a vraiment fait confiance à Dieu. Elle savait que s'il lui demandait quelque chose, ben, il se débrouillerait pour que ça se passe bien. C'est facile à dire, mais je ne sais pas comment j'aurais réagi à sa place. Hein, mais certainement que j'aurais demandé quand même des garanties. Oui, c'est formidable. Elle a accepté sans condition. Parce que sa priorité, c'était sa soumission à Dieu. Oui, deux exemples et deux comportements opposés, on pourrait dire. Alors, qu'est-ce qui motive le comportement de chacune de ces femmes? Les choses annoncées se produisent. Nous voyons que dans le cas de Ève, tout ce que Dieu a dit arrive, pas immédiatement, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ils deviennent mortels et ils entraînent toute l'humanité dans cette fragilité et dans ses conséquences. La désobéissance d'Ève engendre la mort, tout simplement. Voyons maintenant les conséquences de l'obéissance de Marie. Alors, pour Ève, le comportement, c'était la convoitise, elle a voulu être semblable à Dieu. Et pour Marie, ce qui l'a motivé, c'est l'amour. Quand on aime quelqu'un, on lui fait confiance. Et elle était prête à obéir, même jusqu'à mourir pour Dieu. C'est extraordinaire. Alors, en ce qui nous concerne, nos choix aussi entraînent des conséquences pour nos vies. La désobéissance engendre la mort, l'obéissance engendre la vie. L'obéissance de Marie a engendré la naissance du Sauveur et elle a engendré la vie non seulement en ce qui la concernait elle, mais en ce qui nous concerne nous tous, si nous faisons confiance à ce Jésus qui est venu, et si nous croyons en son œuvre rédemptrice, c'est aussi la vie pour nous. Alors j'ai fait ce parallèle entre Ève et Marie, mais j'aurais pu choisir d'autres exemples de personnages bibliques qui ont été placés devant des choix. Lorsque nous sommes placés devant des choix, deux possibilités s'offrent à nous. Alors agir selon les directives données par Dieu, ou agir par intérêt ou par convoitise, sans se préoccuper de la volonté de Dieu. Donc, je prendrai quelques exemples dans la Bible de personnes qui n'ont pas obéi aux directives de Dieu, ou en tout cas qui ont désobéi, ou d'autres qui ont obéi. Alors, ceux qui ont obéi aux directives de Dieu, il y a eu Abraham déjà, qui est devenu Abraham par la suite. Abraham, rendez-vous compte, lorsque Dieu s'adresse à lui et qu'il lui dit « quitte ta famille, quitte ton pays », il avait 75 ans. C'était pas un jeune homme. Et malgré tout, il a obéi et il s'est engagé comme ça, et l'Épître aux Hébreux nous dit même qu'il il a eu la foi et il est parti sans savoir où il allait. Mais il est parti parce que Dieu lui avait dit. Il y a eu Moïse. Alors Moïse, lui, vous rendez compte, quand Dieu lui donne cette mission incroyable de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte, il avait 80 ans. Un jeune homme de 80 ans. Et puis ça a duré 40 ans dans le désert. C'est incroyable. Ce même Moïse qui, dans un psaume, dit que la vie des hommes, c'est 70 ans et 80 ans pour les plus âgés. Lui, il a commencé son ministère à 80 ans. Alors, c'est vrai qu'il s'est fait un peu prier, Moïse, mais on peut le comprendre. Pas évident, à 80 ans, on vous donne une mission aussi incroyable que celle-là, aussi énorme. Eh ben, mais malgré tout, il a obéi. Et il est cité quand même dans ces hommes de foi. Et puis il y a eu un jeune homme nommé Gédéon qui, lorsque l'ange s'adresse à lui, il dit « Mais écoute, moi je suis le plus petit de ma famille, puis je suis dans une des plus petites tribus d'Israël. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Moi je suis pas... » Et l'ange lui dit « Va avec la force que tu as. » Parce que si on compte sur le Seigneur, eh ben, il n'y a rien d'impossible. Et Gédéon a obéi et vous rendez compte ce qu'on lui a demandé. C'est d'affronter une armée énorme, armée jusqu'aux dents, avec une troupe de 300 bonhommes armés de cruches et de torches. Il faut le faire quand même, hein. Mais y aller. Ce que Dieu lui avait demandé. Et ces gens-là, même quand ils se savaient incapables pour accomplir la tâche qui leur était confiée, ils ont réussi dans leur tâche parce qu'ils ont mis leur confiance, non pas dans leur capacité propre, mais dans celui qui avait donné l'ordre. Et maintenant, un exemple, je vous donnerai un seul exemple de quelqu'un qui a failli, c'est le roi Saül. Alors le roi Saül, le Seigneur l'avait mis comme chef d'Israël, et au début il était humble, il se cachait, tout ça, mais après quand il est devenu le roi, l'orgueil l'a saisi, et puis il ne voulait plus lâcher sa place, hein. Et lorsqu'il a désobéi une première fois en offrant le sacrifice à la place de Samuel, eh bien Dieu l'a rejeté. Et puis une deuxième fois, lorsqu'il devait combattre les Amalécites, eh bien il a foiré complètement. Et on lui avait demandé de détruire. Tous ceux qui l'affronteraient, et de dévouer par interdit, c'est-à-dire de sacrifier les bêtes, tout. Et ce qu'il a fait, lui, il a conservé tout ce qui était encore bien, quoi, les belles bêtes grasses. Et puis après, quand Samuel lui en fait le reproche, il dit « Ah oui, mais je les ai gardées pour les offrir en sacrifice ». Alors, est-ce que c'était sa vraie motivation, ou est-ce qu'il avait une petite idée derrière la tête pour en garder un petit peu pour lui et pour le peuple ? Il a détruit tout ce qui était chétif, malade, etc., et puis il a gardé les bonnes. Et alors, lorsqu'il donne cet argument-là, eh bien, Dieu lui dit... Je décide d'annuler ce que j'ai fait en établissant Saül roi, car il s'est détourné de moi et il n'a pas tenu compte de mes ordres. 1 Samuel 15, verset 11. Puis Samuel, quand il lui parle des sacrifices offerts à Dieu, Dieu dit au travers de Samuel, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres ? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice, la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Dieu regarde au cœur. En réalité, Saül avait certainement une arrière-pensée en gardant toutes ses bêtes. Peut-être qu'il avait décidé d'en garder pour lui ou pour le peuple. Mais même si ce n'est pas le cas, cela nous montre une chose. Comme il est dit dans le livre du prophète Ésaïe, « Car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Parfois, nous agissons, en général, c'est ce que nous faisons, nous agissons de la manière qui est humainement la plus logique, évidemment, parce qu'elle nous semble la meilleure. Évidemment, on raisonne avec notre intelligence, mais la manière qui semble la plus logique n'est pas forcément la meilleure aux yeux de Dieu. Parce que lui, il a une vue beaucoup plus large que la nôtre. Alors veillons à nous soumettre toujours à la parole de Dieu. Marie, elle risquait gros à vues humaines. Alors la plupart à sa place auraient argumenté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais les chemins que Dieu nous font emprunter ne sont pas forcément faciles. Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Les chemins qu'il nous fait emprunter ne sont pas toujours faciles, mais ce sont ceux qui mènent à la vie. Le plan de Dieu pour nos vies, il nous le révélera en son temps, quand il le voudra. Il n'est peut-être pas celui que vous auriez choisi. Il n'est peut-être pas celui que vos proches ambitionnent pour vous. Mais peu importe. Alors il suscitera peut-être ce plan de Dieu pour vos vies, de l'incompréhension autour de vous. Mais tant pis. L'important, c'est que ce soit le plan de Dieu pour votre vie. Alors, vous savez peut-être pas ce que Dieu attend de votre vie. Mais si vous ne le savez pas, alors priez et demandez-lui de vous le révéler. Et il le fera. Une chose est certaine, c'est que si nous nous conformons à la parole de Dieu, nous serons dans sa volonté. Et quelle est sa volonté ? Une chose est certaine, si nous nous conformons à ce que Jésus a dit, nous serons dans sa volonté. Et qu'est-ce que Jésus a dit juste avant son départ de cette terre ? On peut lire cela dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi : « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour et jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'est ce que dit l'évangéliste Matthieu. Maintenant, voyons ce qui est dit dans l'évangile de Marc pour ce même moment où Jésus a quitté la terre, et il leur dit « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux. Ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Et qu'est-ce que dit Luc ? Alors, ce n'est pas dans son évangile que je vais lire, mais dans le livre des Actes des Apôtres, où il y a plus de détails sur les dernières paroles de Jésus. Nous voyons dans les Actes, comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Alors, sur la base de tous ces textes, il y a une chose dont nous sommes certains, si nous ne savons pas vraiment le plan de Dieu pour nos vies, il y a un plan dont nous sommes certains, c'est que nous sommes appelés à être ses témoins. Et dans ces textes, nous avons vu dans Matthieu qu'il est question d'obéissance. Faites des disciples, donc parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. On a du mal d'obéir. La soumission, c'est quelque chose, c'est un mot qu'on a éliminé du dictionnaire. Il ne faut plus être soumis maintenant, il faut être libre. On veut faire ce qu'on a envie de faire. Marie était soumise. Et nous avons, le Seigneur nous veut nous apprendre à nous soumettre à sa parole. Et si on veut connaître ce qui attend de nous, eh bien, méditons sa parole, prions, et ça nous sera révélé. Et puis, nous voyons aussi dans le livre des Actes que c'est le Saint-Esprit qui descendra sur vous. Donc, la promesse que le Seigneur sera avec nous tous les jours, c'est à condition aussi que les premières choses qu'il nous demande soient respectées, c'est-à-dire l'obéissance. Et l'obéissance, elle est porteuse de vie, comme j'ai dit tout à l'heure, et elle s'accompagne de signes, de miracles et de prodiges, et de guérisons. Dans le livre des Actes, Dieu nous précise cette promesse, « Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. » Parce que pour être les témoins, on a vraiment besoin de la puissance du Saint-Esprit. Sinon, on n'aura pas beaucoup de résultats. Inutile de préciser que nous comptons que sur nos capacités propres. Tous nos efforts seront voués à l'échec. Le Saint-Esprit, il est symbolisé par une colombe. Quand Jésus a été baptisé, Jean a vu une colombe qui s'est posée sur lui. C'était le signe du Saint-Esprit qui venait sur lui. Et une colombe, c'est quand même fragile et on peut l'effaroucher facilement. Alors, nous pouvons lire ce que Paul nous dit dans sa lettre aux Éphésiens. Aussi, c'est qu'on peut attrister le Saint-Esprit. On peut l'effaroucher, on peut l'attrister. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elle réponde à un besoin et aide les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. C'est l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, 29 et 30. Donc, si on veut que le Saint-Esprit en nous soit efficace, que nos actions soient efficaces, il ne faut pas qu'on fasse fuir le Saint-Esprit en l'effarouchant, il ne faut pas qu'on l'attriste. Et puis, Paul nous dit aussi qu'on peut l'éteindre, le Saint-Esprit. La version seconde nous dit « N'éteignez pas l'Esprit » et dans la version du Semeur, n'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. J'aime bien cette version, parce qu'on n'a pas l'impression qu'on éteint le Saint-Esprit, mais ça revient au même. On l'empêche de nous éclairer, parfois. Sans le Saint-Esprit, on marche dans l'obscurité. Et le problème, si on marche dans l'obscurité, on risque fort de se casser la figure. Et il faut cultiver, si on veut que le Saint-Esprit nous éclaire, cultiver notre communion avec Dieu et cultiver aussi notre communion avec les frères. C'est pourtant pourquoi c'est important de persévérer dans cette communion fraternelle, dans nos réunions, que ce soit les réunions de prière, que ce soit le culte dominical, que ce soit les études bibliques, que ce soit les rencontres dans les cellules, mais que nous cultivions cette communion avec Dieu et avec nos semblables, avec nos frères et sœurs. C'est tellement important si nous voulons que notre vie porte du fruit. Donc une seule option possible, c'est l'obéissance à ce qu'il nous demande. Que Dieu nous aide dans l'année qui va bientôt commencer à découvrir son plan pour nos vies, et pour cela mettons-nous à son écoute dans l'étude de sa parole et la communion avec nos frères, et poursuivons ensemble le chemin avec persévérance. Amen. Je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ces exemples dans ta parole, exemples à suivre et exemples qui nous interpellent pour ne pas agir de la même façon de ceux qui ont fauté, de ceux qui sont écartés de ta volonté. Que nous puissions entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Révèle-nous ton plan pour nos vies, afin que nous puissions entrer dans un chemin d'obéissance pour voir du fruit dans nos vies. Nous désirons tellement voir d'autres s'approcher de toi, se tourner vers toi et nous rejoindre, et que ensemble nous puissions être des lumières, des témoins, le sel de la terre, pour que beaucoup encore puissent rejoindre nos rangs et que ton nom soit glorifié dans ton Église et dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen.